Coucou les gens, alors aujourd'hui on inaugure le podcast du blog Les Tomates de Johan
et Christina.
Et Christina, moi-même, et Johan qui est là aussi. Et les podcasts, en fait, ça vient de mon idée, même si Johan, je pense, y pensait aussi. Mais comme en ce moment j'écoute beaucoup de podcasts et que je trouve que c'est hyper intéressant d'écouter des gens raconter leurs histoires, leur vie et comment ils voient les choses et la vie. Je me disais que j'avais envie de faire la même chose. En ce moment, on est sur plein de sujets différents, on découvre beaucoup de choses et on réfléchit beaucoup et ça fait aussi du bien d'en parler, de le partager avec d'autres. Et on a trop envie d'avoir votre avis aussi. C'est une manière pour nous de vous raconter un peu notre quotidien et tous nos questionnements sur la vie. Et tout ce qu'on fait aussi à côté, parce que beaucoup d'entre vous savent qu'on est très engagés dans les assos, et des fois, je pense que vous devez vous dire qu'est-ce que c'est ces fous-là qui perdent leur temps, qu'est-ce qu'ils font, ils sont complètement ch'tarbés. Donc là, c'est un moyen de vous le raconter d'une manière où on prend le temps, et puis vous pouvez l'écouter en cachette chez vous. Et puis voilà. Et donc, c'est le premier podcast et ça parle de désobéissance civile. Coucou!
Alors, demain, tu fais une action de désobéissance civile et j'aimerais bien savoir, pour toi, c'est quoi, en fait, désobéir ou la désobéissance civile?
Alors, la désobéissance civile. La désobéissance civile, pour moi, c'est une manière qu'on a, en tant que citoyen, de protester contre une loi, une règle, un système qui nous plaît pas, qu'on trouve pas logique, ou qu'on trouve injuste, ou qu'on trouve pas pertinent. Et du coup, on va faire quelque chose, une action qui va nous mettre dans un état partiel ou total d'illégalité.
Un peu hors la loi.
On va aller un peu dans les limites de la légalité, quoi. On va jouer avec ça pour faire quelque chose qui soit impactant et faire porter un message d'une manière différente que les pétitions ou les manifestations classiques. Et la désobéissance civile, c'est aussi le fait de faire ça donc en public pour qu'il y ait des gens qui le voient. Et aussi de le faire de manière non violente. Enfin, c'est une attitude globale, je pense, qui est liée à la désobéissance civile, enfin, je crois. Donc de faire ça de manière pacifique et de jamais montrer de signes de violence.
Et du coup, tu parles de non-violence, mais c'est quoi l'attrait ou l'avantage d'être non-violent dans la désobéissance civile?
Le fait d'être non-violent, ça...
Déjà, notre non-violence, ça veut dire quoi concrètement?
Ouais, déjà être non-violent, en fait c'est tout plein de définitions que je sais pas. Je connais pas vraiment les tenants et les aboutissants parce que en fait j'aurais bien aimé, j'ai pas encore trouvé le temps de lire, de me documenter sur la non-violence vraiment et la théorie et les théoriciens et Gandhi et tout ça. Va falloir que je le fasse un jour quand même.
Ouais, mais toi tu l'appliques comment la non-violence?
Ouais, la non-violence, ouais, alors la non-violence dans les actions. C'est juste un comportement, c'est une manière d'être, on va dire, qui est tranquille, pacifique, face à des fois des comportements agressifs. Je vais jamais répondre par une violence ni verbale ni physique, ni même de l'intimidation psychologique, par exemple une attitude qui pourrait être perçue comme agressive ou... Par exemple, si je me penche vers la personne, bon là, moi je suis petite, ça va pas trop fonctionner, mais je sais pas, par exemple, lui faire un regard qui veut dire que je suis méchante ou que je le menace, enfin tout ça en fait c'est proscrit. Et l'idée c'est vraiment juste d'être pacifique et de dire on est là, on a un discours à faire passer, mais on va pas vous faire chier, on va pas vous taper, on vous agresse pas quoi.
Mais le côté adverse, on va dire. Et un peu violent des fois, comment ça se passe en fait? Comment toi tu ressens? Est-ce que c'est difficile d'être non violent? Est-ce que la violence c'est plus facile finalement quand on en reçoit? Si tu rencontres des policiers, est-ce qu'ils sont violents? Est-ce qu'ils gazent? Est-ce qu'ils matraquent? Et comment toi tu réagis dans ce cas-là?
C'est... En fait, si tu pars pas du principe de base que t'es non violent, je pense que c'est la réaction normale de quelqu'un quand il reçoit une agression, il répond en agression.
Donc c'est plus difficile d'être non violent.
Donc c'est plus difficile. Alors bon, ça dépend dans quelle situation. Par exemple, quand ce que j'aimerais moi à terme, c'est être non violente tout le temps. C'est-à-dire même quand je fais pas une action où je réfléchis que je suis non violente. Mais par exemple, quand je m'engueule avec quelqu'un ou que je discute de manière assez
Violente.
Virulente avec quelqu'un ou que je suis pas d'accord mais que ça commence à s'envenimer, j'aimerais pouvoir réagir de manière non violente tout le temps hein, avec la communication non violente. Ça veut dire qu'en fait, tu te mets dans une position où tu parles de toi et tu vas pas attaquer l'autre, tu vas pas lui faire des reproches ou quoi. Et dans les actions, c'est la même chose en fait. C'est que toi, tu viens avec ton message à faire passer parce que t'es en malaise de quelque chose dans la société. Et tu es pas là pour. Évidemment, t'accuses des entreprises, un système. Mais la personne que tu as en face de toi, en général, elle y peut rien. Et comment on réagit? Ben, souvent, donc dans les manifs, par exemple, ou dans certaines actions, souvent on a des vigiles ou du personnel ou même des CRS qui sont vénères et qui sont plutôt très agressifs et très violents verbalement, physiquement. Et nous, en fait, comment on réagit? Ben, la base, c'est que déjà, on réagit pas. Enfin, on renvoie pas l'agressivité à la personne qui est en face de nous. On va leur faire des signes qui montrent qu'on est non violent. Donc, on va lever les bras, par exemple, pour dire, voilà, on est non violent. On va s'asseoir des fois pour montrer que voilà, on est pacifique, on reste là. Évidemment, on bloque, évidemment, on fait chier, mais on n'est pas violent. Des trucs comme ça, il y a des techniques aussi que je connais pas tout, mais que j'apprendrai au fur et à mesure.
Et finalement, comment y réagissent les policiers, les vigiles? Est-ce qu'ils restent dans la violence ou est-ce qu'ils se finissent par se calmer?
Ben, en fait, je sais pas, j'ai pas fait assez d'actions pour savoir si, de manière générale, comment ils réagissent. Ce que je peux dire, c'est par rapport aux quelques actions que j'ai faites, la toute première qu'on avait faite avec toi, et les vigiles et le personnel étaient arrivés en masse pour nous faire peur. Ils avaient pris notre action comme quelque chose de très agressif. Ils l'avaient pris personnellement. Le personnel pensait qu'on était là pour les faire chier, pour les bloquer dans leur travail. Je pense qu'ils avaient aussi de la peur de se faire virer ou de. Enfin, surtout, ils étaient énervés parce qu'on leur défaisait leur travail. Donc, ils ont pris ça comme une agression. Donc, même si on leur disait qu'on était non violent pour eux, on était violent parce qu'on les agressait. Donc, ça, c'était compliqué à gérer. Et ils ont pas. Même le fait qu'on n'était pas violent, qu'il y a des gens qui se sont étalés par terre pour montrer. Bon, ça faisait partie de l'action, mais en plus, c'était non violent. Les vigiles leur ont marché dessus et tout. Ils en ont profité, en fait, du fait qu'on était non violent. Pour abuser de leur propre violence. Et là, pour le coup, j'avoue que ça n'avait pas super bien marché. Par contre, les autres actions que j'ai faites, le fait d'être non violent, ça avait bien marché. Ça a apaisé direct les CRS ou le personnel. Le fait qu'il y ait des gens qui soient là pour parler, pour expliquer ce qu'on fait, pour expliquer notre positionnement.
Moi, je me souviens
Globalement,
qu'à
ouais.
l'action de la Société Générale à Paris, la grande mobilisation, les CRS étaient violents au début et le fait qu'on soit non violent a amené
Ouais.
à ce qu'ils se calment complètement.
Ouais.
Après, c'était détendu, on a reçu des lacrymos au début, des coups de
Ouais.
matraque sur certains, mais une fois qu'ils ont compris qu'on était non violent, ils se sont vraiment calmés et ça s'est fini pendant 1 heure où en fait on n'a pas subi de violence
Ouais,
après.
après moi je pense que honnêtement sur cette action-là c'était un peu particulier parce que quand on est arrivé, enfin on avait annoncé l'action, c'était annoncé depuis des mois, depuis 1 mois ou 2 qu'on allait aller à cette agence-là dans Paris. Bon, on est arrivé, moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de cars de CRS, honnêtement il y avait plusieurs dizaines de cars et pour moi c'était violent déjà dans ça quoi parce que. Franchement, ils le savaient, ils auraient pu se renseigner. Enfin, ils savaient très bien qu'on était non violents et ils sont arrivés à 40 000 CRS. Franchement, c'était abusé déjà. Ça, c'était violent de leur part, de base. Et puis, apparemment, dès qu'on est arrivé, bon, ok, on s'est pris des lacrymos. Apparemment, moi, j'ai pas vu, mais après, il y a eu les vidéos, donc j'ai vu des gens qui se sont fait matraquer direct. À peine arrivés, on n'avait rien fait, quoi. On n'avait montré rien du tout de ce qu'on voulait faire. Donc voilà, assez violent, mais après, honnêtement, sur cette action-là, le fait qu'on était non-violent, ok, ça a apaisé, mais en vrai, moi, je pense que c'était particulier parce que parmi tous les CRS, je pense que la plupart étaient cool, ils savaient qu'on était tranquille, et je pense que même la plupart étaient d'accord avec ce qu'on disait, mais dans le tas, il y avait des CRS pas sympas, qui étaient déjà énervés et qui voulaient juste taper. Donc à partir de là, tu peux rien faire. Et ces gens-là, on les a pas calmés. Hein.
Et toi, tu parles de CRS, de... tu sais qu'ils étaient avec toi. Tu as eu l'occasion de discuter avec un policier, un CRS ou un vigile pour voir ce qu'ils pensaient, est-ce qu'ils peuvent le dire, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de le dire? Comment ça se passe avec les forces de l'ordre?
J'ai pas pu discuter avec eux. Enfin, sur la première action, j'avais discuté avec les policiers qui étaient venus nous faire le contrôle d'identité. Ils étaient bon, je restais sur mes gardes parce qu'on m'avait dit il faut faire attention, faut pas trop raconter ta vie avec les policiers, ils peuvent s'en servir après, des fois ils font les sympas et en fait ils le sont pas, mais bon là ils étaient vraiment sympas pour ça, leur, ça les faisait rigoler en fait, je pense que ça les faisait plus chier qu'autre chose qu'on les ait appelés pour ça parce qu'ils ont vu direct qu'on était tranquille. Et j'ai discuté, oui, et ils nous disaient il était pas cash, mais il nous disait, ben ouais, mais vous savez, nous, on n'a pas tout le temps l'uniforme. En tant que citoyen, on est des citoyens aussi, et on a aussi nos idées. Et en gros, il était en train de me dire qu'il approuvait ce qu'on faisait. Et voilà.
Ça reste des êtres humains avec des
ça
enfants.
Ça reste des êtres humains avec des enfants, et c'est ce qu'on a dit d'ailleurs. Enfin, j'ai adoré ce slogan qu'on avait sorti à l'occasion du truc de la Société Générale à Paris. C'était le slogan de la police doucement, on fait ça pour vos enfants. Et moi, je l'avais dit beaucoup, beaucoup à un moment donné où on était par terre et on attendait de nous déloger. Et j'ai trouvé que c'est assez fort, quoi. Et ouais, ils sont compréhensifs, quoi.
Du coup, toi, tu as quel rôle souvent dans ce genre d'action? Tu fais quoi? Tu fais plutôt. Tu essaies plutôt d'étendre les policiers, tu essaies plutôt de coordonner, tu essaies plutôt de faire le mariole.
Ça, c'est toi le mariole?
Ça, c'est moi.
Non, moi, c'est plutôt de la coordination. J'ai fait qu'une seule action où j'étais pas coordo. Mmh. Donc, je suis plutôt du côté de l'organisation.
Et c'est quoi la coordination?
Bah, la coordination, c'est que, en fait, quand on décide. Enfin, moi, pour l'instant, j'ai jamais décidé de faire une action. C'est-à-dire que il y a le mouvement dans lequel nous, on fait les actions, s'appelle ANV COP21, donc Action Non-Violente COP21, qui bosse beaucoup avec les Amis de la Terre, régulièrement. Et du coup, eux, ils ont des stratégies sur l'année où ils disent, bon, ben, là, on va cibler tel truc, parce que c'est ça qui ressort de plus pire pour le climat actuellement. Par exemple, voilà, cette année, on va cibler la Société Générale pour qu'elle arrête ses financements dans le gaz de schiste. Et du coup, ils décident les actions. Et ils nous disent, ben voilà, tel jour, on va faire telle action au national. Et ils envoient à tous les groupes locaux. Et ils envoient un kit d'action à tous les groupes locaux avec le discours, enfin, les infos sur la campagne. Les infos qu'on doit savoir au niveau scientifique, les chiffres, pourquoi on fait ça, etc. Voilà. Et puis, l'idée de l'action. Parce qu'en général, c'est des actions avec un but particulier. Et voilà. Après, on a une certaine liberté au niveau local. Et moi, du coup, la coordination, c'est tout le travail en amont de préparation pour que l'action se passe bien. Que les gens soient là au bon endroit, au bon moment. Que les gens soient briefés, parce que il faut qu'ils sachent ce qu'ils vont faire, parce que c'est quand même des actions qui demandent un peu de d'auto-organisation.
Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'une action non-violente, ça se prépare, et les gens ne sont pas forcément au courant d'où ils vont, ce qu'ils vont faire exactement, et que quelques heures avant l'action, on les briefe pour savoir ce qui va se passer.
Ouais, oui, voilà, il y a un côté un peu confidentiel, un peu... Moi, ça, enfin, au début, les premières... La première action, quand j'ai découvert comment ça s'organisait, je me disais, mais attends, on est en train de faire une mission secrète, en fait, les gars. Là, on est des agents secrets et on fait des trucs, on utilise des outils cryptés, enfin, on utilise des noms de code, c'est trop drôle. Et c'est ça. Et du coup, c'est assez confidentiel. Donc, il n'y a que les cordos, normalement, qui savent ce qui va se passer dans l'action et tout ça. On ne communique pas les lieux, on ne communique pas l'heure, on ne communique pas rien du tout.
Mais c'est aussi super bien préparé, c'est-à-dire qu'on va pas à l'arrache, j'ai envie de dire.
Ah ben non, pas du tout. C'est ça qui est puissant dans l'action non-violente, c'est que peut-être que les gens qui viennent, ils ont l'impression qu'on vient de nulle part et qu'on sort de nulle part et qu'on arrive avec nos balais pour nettoyer une agence de banque. Mais en vrai, c'est hyper. D'abord, c'est hyper réfléchi au niveau national sur la stratégie. Ils réfléchissent aux stratégies non-violentes, ils réfléchissent aux stratégies humoristiques aussi. Et puis nous, en amont, on prépare une action, ça se prépare au moins 2 semaines avant. Voire des fois plus si c'est des grosses actions. Mais voilà, parce qu'il faut trouver les gens, il faut trouver le matos, il faut faire des repérages dans les lieux. Donc là aussi, ça fait un peu mission secrète. On va, on prend des photos, on est discret, on vérifie que tout ce dont on a besoin est sur place. Enfin voilà, il y a beaucoup de préparation, quoi.
Et du coup, c'est stressant de préparer une action. Comment tu te sens avant, pendant et après?
Préparer une action, pour moi, c'est pas stressant du tout. J'adore organiser des choses, donc là, c'est trop cool. En plus, on est nombreux en général sur les actions, donc je suis contente. Comment je me sens donc avant? Bah voilà, après, c'est beaucoup d'enthousiasme parce que je me dis que ce que je fais, c'est pas une perte de temps. Je suis à l'œuvre pour un truc utile et qui fait sens pour moi. Souvent, c'est créatif, donc c'est cool, on rigole bien. Il y a le côté humoristique. Et j'ai beaucoup d'excitation avant l'action. J'ai hâte d'être au jour J et tout ça. Après, juste avant l'action, en tant que cohorto, c'est un petit peu de stress. Enfin, du trac, je dirais. Enfin, un peu de, ok, est-ce que j'ai bien tout prévu? Est-ce que les gens ont bien compris ce que je leur ai dit au brief avant d'aller sur l'action? T'es un peu comme une petite famille, donc tu t'occupes de tout le monde, tu vérifies que tout le monde est OK, que chacun son rôle, ça lui convient, qu'il est pas mal à l'aise. Parce qu'il y a des rôles qui sont plus ou moins difficiles à tenir ou à assumer. Donc voilà, et puis il y a du trac. Juste avant l'action, il y a grave de trac, parce que c'est l'adrénaline qui monte, quoi. Tu vas faire un truc quand même qui est un peu illégal, quoi. Donc quand même, il y a un petit peu de. Même si c'est soft en général.
Je sais que le trac, c'est le moment où on va rentrer dans la banque, par exemple. Et là, tu te dis, bon, est-ce que le vigile il va nous capter d'entrée? Parce que s'il nous capte d'entrée, il peut nous pourrir notre action.
Ouais.
S'il nous capte pas et qu'il a le sourire, là, tu te dis, ok, t'as tout gagné. Mais s'il commence à être violent, c'est là où je me fais mes scénarios et je me dis, et c'est le moment le plus stressant, en fait. C'est vraiment le moment où tu rentres, où tu commences l'action. Et après, une fois qu'elle est commencée et que les gens sont plutôt détendus, que tu as mis en place la chose, enfin l'action. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce moment-là qui
Ouais,
est
c'est
le
le tout
plus
début
compliqué,
quand
quoi.
tu
Ouais.
quand arrives et que tu rentres et que ça y est, ça démarre, quoi. C'est aussi le moment où tu dis go aux gens, quand t'es
Ouais.
cohorto, et que tous les gens attendent que tu leur dises go, c'est parti, on y va. Et là, tu cries partout, go, go, c'est parti, on y va. Enfin, tu cries partout. Ça dépend l'endroit et comment c'est plus ou moins discret. Mais il y a le côté un peu grosse excitation de allez, go, c'est parti. Et pff, tout d'un coup, t'as tout le monde qui se met dans son rôle. Et là, c'est trop cool parce
Là,
que
tu réfléchis plus.
là, tu réfléchis plus, t'es dans l'action, t'es juste en train de regarder partout. En tant que cohorto, tu regardes partout pour être sûr que tout le monde va bien, qu'il se passe rien et tout, t'observes machin. Et là, t'es dans l'action, ça passe trop vite. En tant que cohorto, des fois, t'as des moments de flottement où t'attends que ça se passe. Donc là, c'est cool, tu te reposes. T'envoies des messages à tout le monde au niveau des bases arrière pour dire que tout va bien, tout est OK. Ou alors que tout va pas bien et qu'il y a les flics qui arrivent et que c'est la merde et qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'était la première action, je savais pas comment ça se passait. Et voilà. Et puis la confrontation avec les flics, quand il y en a, ben, c'est l'adrénaline aussi, hein. Mais c'est une autre sensation. Mais d'abord,
La galette.
je vais la galette. Et non, je n'ai pas vomi. Je suis allée chercher la galette
Pourquoi
des
t'aurais
rois
vomi?
dans le four.
Bon, et on en était sur l'adrénaline des policiers. Et moi, ma question, c'est en tant que cohorto, comment tu vis la fin de l'action? Au moment de dire, bon, allez, les gars, on remballe, c'est fini. Soit on a fait ce qu'on voulait, soit on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Et dans ces deux cas, comment toi tu vis l'action? Et est-ce que tu as l'impression d'un devoir accompli? Est-ce qu'il te manque quelque chose ou est-ce que tout est parfait et tout est bien?
Bah, ça dépend de l'action. Ça
ouais,
dépend comment ça s'est passé.
Explique sur les différentes actions, comment tu as ressenti la fin?
Bah, la toute première action, moi j'étais naïve et innocente et je pensais que ça se passerait super bien. Qu'on pourrait faire tout ce qu'on voulait, ça me paraissait tout à fait réaliste. Et en fait, ça s'est passé super mal. Je dirais pas que ça s'est passé super mal. Disons que ça n'a pas passé du tout comme on voulait. Les vigiles sont arrivés assez rapidement à 10. On était combien? Entre 20 et 30.
Ouais.
Voilà, donc 10 vigiles personnels, tout confondu, plus la directrice du magasin, complètement hystérique. Bon, donc c'était difficile à gérer. On n'avait pas assez de PK, donc les peacekeepers, les anges gardiens, qui sont ceux qui ont pour rôle de...
Désamorcer.
D'expliquer, de parler, de discuter, d'apaiser le personnel et les gens à qui on a affaire, normalement. Mais là, il n'y avait aucun dialogue possible avec ces gens. Ils étaient complètement fermés, il n'y avait rien à faire. Donc, on a dû passer les étapes de l'action beaucoup plus rapidement, de manière pas du tout finie. Et à la fin, bon voilà, il y a des gens qui se sont fait marcher dessus, on se faisait insulter dans tous les sens. Donc on a dû partir un peu dans la précipitation. Et ensuite, on a eu les flics à la fin du truc en sortant du magasin. Bon, donc pendant qu'on attendait le long du mur, j'ai eu le temps de redescendre en fait de mes émotions. Et on a discuté, et puis après, en fait, après chaque action, on fait des débriefs avec tout le monde pour parler de comment ça s'est passé. Moi, en tant que cordeau, j'étais vachement déçue sur le coup, parce que je me disais, on a mal fait quelque chose. J'ai mal géré, j'ai pas fait quelque chose de bien. Enfin, je pensais que c'était ma faute. Bon, maintenant, je me rends compte que c'est pas forcément ma faute. Et puis, j'ai dédramatisé, parce qu'en fait, on a quand même réussi à avoir les photos qu'on voulait. On a fait ce qu'on pouvait, et puis c'était bon, pour moi c'est un beau souvenir parce qu'en fait on a vécu un fort moment de solidarité, on était comme une petite famille, tout le monde s'occupait les uns des autres malgré le fait qu'on était dans une merde terrible parce que tout le monde était très violent avec nous. Et du coup c'est quand même une bonne action pour moi.
Et les autres actions qui sont mieux passées? Celle de Paris, ouais. La grande action de Paris que tu as coordonnée un petit groupe.
Ouais, la grande action de Paris, j'étais contente de coordonner aussi parce que c'était assez ouf comme action. Et la grande action de Paris, ça s'est passé totalement différemment. Les gens dans les agences de banque étaient super cool. Bon, à part la grosse agence générale, mais du coup, j'ai pas coordonné grand-chose parce qu'en fait, je me suis pris des gaz lacrymo en plein dedans, comme tout le monde, hein, dès le début. Donc, à un moment donné, j'étais un peu absente pour mon groupe. C'est plutôt les autres qui se sont occupés de moi. Je me suis mise en arrière en plus et tout. Mais bon, après, je me suis occupée de quelqu'un d'autre qui était pas bien. Et donc voilà, c'est ça en fait. Une action, c'est de s'occuper des uns des autres. Et sur les actions de l'après-midi, ça s'est super bien passé. C'était fun. Des fois, j'avais même des moments où j'avais rien à faire. Je me faisais un peu chier parce que je pouvais même pas rentrer dans les agences parce que j'étais à l'extérieur à regarder ce qui se passait et tout. Puis de toute façon, c'était trop petit. Donc ça s'est super bien passé, et ce que j'apprécie en tant que cordeau, c'est qu'à la fin, quand on débrief et qu'on parle un peu, à chaque fois que j'ai coordonné, les gens m'ont dit « c'était trop chouette de t'avoir comme cordeau, tu gères tout trop bien », et les gens se rendent pas compte, parce que des fois, moi j'ai l'impression de faire des grosses erreurs, des gros ratés, et en fait les gens, ils le prennent vachement bien, et à chaque fois ils me disent « franchement c'était super bien de travailler avec toi, de faire ces actions avec toi ». Donc je suis fière, quoi, je suis contente, ça me fait plaisir et j'ai envie de continuer.
Ouais, et qu'en est-il de tes amis? Est-ce que tu as réussi à faire venir des amis dans les actions? Est-ce que tu en parles à tes potes? Et comment, si tu en parles, comment ils réagissent?
J'ai réussi à faire venir une amie dans les actions, mais elle était quasiment déjà acquise à la cause. Parce qu'elle est déjà dans tout ce qui est environnement et tout, et elle est très consciente de ce qui se passe. Donc pour elle, c'était une première, les actions non violentes, la première fois qu'on a fait une action aussi. Et pareil, elle a kiffé. Donc j'étais contente parce qu'en plus, elle a fait partie des gens qui se sont fait marcher dessus. Donc je me suis dit, oh là 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 là, elle va plus jamais revenir et tout. Et en fait, non, elle a vraiment adoré. Elle est revenue à Paris. Malheureusement, on n'a pas pu se croiser, mais enfin, ça montre que voilà, que bon, voilà, on a réussi à voilà. Après, sinon, les autres potes, j'en parle rarement. Soit j'en parle parce que je sais que c'est des gens qui savent de quoi on parle, qui sont plus ou moins sensibilisés à l'environnement, à l'écologie et aux luttes. Voilà. Sinon, c'est très rare que j'en parle. Quand j'en parle, soit je dis action désobéissance civile, soit je dis action non violente, mais en fait j'ai l'impression que quand je dis action non violente, dedans les gens ils entendent que le mot violent. Ouais.
On a très peu d'amis qui luttent en vrai.
On en a très peu. Là on commence à en avoir actuellement à Nantes parce qu'on est allé vers ces réseaux-là directement. Mais à Paris, avant, on venait d'un autre milieu complètement différent et on est devenus un peu les gens chelous du groupe et des groupes qu'on avait. Et je pense que les gens ne comprennent pas vraiment pourquoi on fait ça, pourquoi on prend des risques. Je pense qu'ils ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Mais en fait, moi, j'aimerais bien leur expliquer. Mais le problème, c'est que je sens que quand j'en parle, il y a beaucoup de gens qui se ferment. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Quand je dis, par exemple, « Ah ben ouais, ben samedi... samedi matin, je fais une action ou je fais un truc. Ils ne me posent pas spécialement de questions. Alors que moi, franchement, je serais plutôt là en mode c'est curieux, c'est quoi ton truc, machin. Ils ne posent pas vraiment de questions. Et des fois, je les sens vraiment fermés. Et je me dis, est-ce que c'est parce que la manière dont je le dis, ça les culpabilise eux-mêmes? Ou est-ce qu'ils se disent c'est trop un truc de malade, c'est un truc trop extrême et du coup, je veux même pas en entendre parler parce que je ne suis pas capable de le faire? Je sais pas.
Si les gens déjà ne manifestent pas, toi tu me diras, nous on manifeste pas non plus.
Bah moi j'ai quand même manifesté quand j'étais à la fac et tout ça quoi.
Ouais, mais bon on a tous manifesté pour le CPE.
Ouais voilà, après j'étais pas spécialement engagée dans la lutte quoi, je savais même pas pourquoi j'y allais quoi, en vrai.
Ouais.
Donc voilà, les amis qui sont pas dans le milieu c'est compliqué quand même.
Moi j'en parle aux collègues et je le fais à la ton de la rigolade. Je dis que je vais embêter la Société Générale. J'explique pas forcément pourquoi, ou c'est pas le plus important. Et en rigolant, je leur dis ouais, je vais faire chier ma banque, parce que j'y suis à la Société Générale en vrai. Mais du coup, ça les pose des questions, et quand il est temps du week-end, ils me disent bon, alors ce week-end, tu vas à ta banque, en rigolant. Et l'action de Paris qu'on a faite, je leur ai dit que j'allais à Paris, parce que j'avais posé un jour, exprès pour y aller, et je leur ai dit que je faisais une grosse action, et du coup. Je pense pas qu'ils m'aient vu, mais par contre, ils en ont entendu parler à la télé. Du coup, le matin, le lundi matin, ils me disaient « Ah, je t'ai pas vu à la télé, mais on a entendu parler et tout. » Mais bon, ça, c'est pas des gens qui iront manifester ou faire des actions non violentes.
Ouais, mais au moins, ils sont ouverts. C'est drôle
pour eux. On peut en discuter.
Ouais, vous pouvez en discuter, parce que moi, il y a certains amis, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment fermés à ça. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est ma manière de l'aborder qui est trop sérieuse et du coup ça les renvoie direct à leur image de moi j'agis pas alors je préfère pas en parler. Ouais. Faudra trouver des manières de d'en parler. Bah, et du coup toi par rapport au fait de d'y être des fin de faire ces actions, pourquoi tu fais ça?
Ben moi, j'ai plutôt tendance à faire des actions de marcher sur une seule jambe, comme dirait Alternativa. Moi, je marche sur la jambe des alternatives le plus souvent. Mais la colère que j'ai en moi ne peut pas s'exprimer avec les alternatives. Parce que le monde va pas bien, il y a plein de choses qui sont atroces, qu'on fait subir. J'ai envie de trouver des solutions, enfin de trouver des solutions, de proposer des solutions, de tester des solutions pour montrer l'exemple. Mais en même temps, je suis d'accord de dire que si on n'est pas un peu militant, ou pas forcément militant, mais qu'on ne fait pas des actions un peu politiques, pas forcément s'engager dans un parti, mais vraiment la lutte, on ne fait pas tout. C'est comme le yin et le yang, il n'y aurait qu'un seul côté, ou comme Alternative a dit, on marche sur une seule jambe, quoi, si on fait que les alternatives. Et on marcherait sur l'autre jambe avec la lutte des obéissants civils. Et puis ça, finalement, ça permet de sortir un peu la colère qu'on a en soi, parce que on est non-violent, bon, du coup, en étant non-violent, on garde la colère, mais le fait de subir en direct des fois la colère, des fois peut-être la haine des policiers envers nous, parce que des fois ils aiment pas les, j'allais dire, les gauchistes écolos, et des fois ils supportent pas. Il y en a qui nous aiment bien, mais il y en a qui nous supportent pas, du coup ils s'empêchent pas de nous envoyer des lacrymos et des matraques. Et en fait, de subir cette violence, finalement, ça fait sortir ma violence sans la sortir en mode violence. Ça, je sais pas comment dire, mais c'est l'adrénaline fait que c'est un moyen d'exprimer ma violence et de me dire j'ai raison, je subis de la violence et j'exprime pas ma colère extérieurement. Et en fait, ça l'évacue quand même.
Ouais, moi en fait. Ouais, je pense que c'est à peu près pareil, dans le sens, enfin, après, moi j'ai beaucoup de colère en moi par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport au fait que je suis un peu impuissante, que je vois la connerie du monde, quoi, et je me dis, mais moi je suis pas quelqu'un de blasé, quoi. Quand je vois des trucs, ça m'atteint très profondément, je pleure direct alors que ça me concerne pas, je suis hyper en colère, j'ai un truc qui monte en moi hyper violent. Et donc, il faut que je trouve un moyen de transformer cette colère, ou en tout cas de l'extérioriser, parce que sinon, tu deviens malade, quoi. Du coup, je pense que les actions, ça me permet ça. Et en fait, je vois qu'il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau dire qu'on est non-violent, en vrai, on exprime cette colère, on la fait sortir d'une manière non-violente, mais c'est parce qu'on arrive à la contrôler et à la transformer en une énergie. Pour se battre pour une cause, ouais. Pour la cause qui nous importe.
Puis je dirais que ce qui est important aussi sur ces actions, c'est le fait d'avoir des résultats. Parce que mine de rien, là, Société Générale, on n'a pas encore eu des résultats énormissimes. On a juste réussi à dialoguer avec eux. Mais ils ne veulent pas revenir en arrière. Mais il y a un an ou deux, ils ont fait des actions contre la BNP pour la même chose, le gaz de schiste. Et la BNP s'est désengagée. Bon, ils n'ont jamais annoncé que c'était grâce à, enfin, ou à cause de nous. Mais mine de rien, quand ils ont annoncé officiellement qu'ils s'étaient désengagés des financements de gaz de schiste, ils nous ont bien envoyé un mail pour nous dire « Ouais, vous le direz à vos groupes locaux, c'est bon, on arrête. Hein. » Donc, mine de rien, ils flippent un peu. Ouais. Et ça a atteint leur image et ils se sont désengagés, peut-être pas à 100% grâce à nous, mais aussi en partie grâce à nous. Et on le voit maintenant, j'ai l'impression que les manifestations, on a vu les manifestations sur la loi travail, sur Film Debout, en fait, c'est très compliqué d'avoir des vrais résultats. Et souvent, on s'accommode de petits résultats, des petits pas qui ne sont pas écolos, mais on s'accommode des petites choses. Et j'ai l'impression que la lutte non-violente et la désobéissance civile, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on cible quelqu'un en particulier. On a des vraies revendications, avec des vraies solutions à apporter, avec un vrai dialogue. On a vraiment un interlocuteur qu'on a identifié. Et ça permet de transformer, en fait, transformer finalement l'entreprise dans laquelle on vise. Enfin, transformer, ça fait un peu bisounours. On va pas la transformer en profondeur, mais c'est aussi partir du principe que, par exemple, les banques, elles vont nous servir pour la transition écologique. Mais qu'il va falloir qu'on le fasse avec elles et qu'elles le fassent avec nous. Donc, on ne veut pas qu'elles arrêtent, on ne veut pas qu'elles fassent banqueroute ou qu'il y ait un problème dans ces banques-là. On leur impose de changer complètement de paradigme et de financer les projets écolos. Mais c'est à partir du principe qu'on aura besoin des banques pour avancer.
Ouais, enfin, en tout cas, dans ces actions-là, la différence avec d'autres moyens d'action pour protester, ce qui est intéressant et ce qui me paraît le plus efficace, c'est ces actions-là, parce que elles ciblent des gens très particuliers. Et on cible directement, enfin, on va directement au contact des gens qui ont le pouvoir de prendre des décisions et de faire des changements radicaux. Alors que quand on va se balader dans la rue, c'est sympa, on passe l'après-midi entre potes, on rigole bien, on se fait des pancartes, c'est drôle. Mais il n'y a rien. À la fin, on rentre chez soi et on n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose.
Et puis à la fin,
on n'a pas de satisfaction.
À la fin, c'est...
Ouais, et on ne sait toujours pas à qui on parle, en fait. On parle dans le vide. En fait, on parle dans la rue, mais c'est dans le vide.
Oui, et puis souvent, c'est des manifs sur l'État et pas sur les entreprises.
Voilà. Alors que là, on va directement... On sait que c'est la Société Générale qui pose problème. Bah, on va directement la voir et on lui demande d'arrêter. Il n'y a pas 400 interlocuteurs différents. Et on n'attend pas sur l'État pour agir. on agit nous-mêmes. Et la désobéissance civile, c'est ça aussi qu'on n'a pas dit. Mais que pour moi, c'est hyper important que finalement, que, si c'était possible, que tout le monde le fasse. Parce que c'est une manière d'exercer ton pouvoir de citoyen.
C'est un acte citoyen. Hein.
C'est un acte citoyen, c'est un acte politique. Et il est plus efficace que de les voter, limite. Enfin, pour moi, en tout cas.
Ouais. Et du coup, finalement, qu'est-ce qui fait que tu es dans ces associations-là et pas dans une autre ? Pas forcément désobéissance civile, mais tu t'impliques beaucoup finalement chez ANV COP21. Pourquoi tu vas pas à Alternatiba ? Pourquoi tu vas pas Greenpeace ? Pourquoi tu vas pas chez ATTAC ? Qu'est-ce qui fait que finalement ton dévolu s'est orienté vers ce genre d'association ? Qu'est-ce que tu trouves dans ces associations-là que tu trouveras peut-être pas ailleurs ou que tu imagines pas ailleurs ?
Moi, j'ai pas fait un choix vraiment réfléchi. Je suis tombée par hasard dessus, donc j'y suis allée parce que ça m'a plu, parce que c'est dans l'action, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui suit dans l'action. Je j'aime pas réfléchir 40 000 ans.
Le hasard a fait que t'es tombée sur eux.
Ouais, de manière générale, je suis pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je sais, j'ai vu depuis des années, je vois des documentaires, je vois des choses sur le climat, sur ce qui se passe dans le monde, même au niveau de l'évasion fiscale et tout, et ça me rend malade. Et vraiment, il y a eu des reportages comme ça qui m'ont vraiment choquée, plus que d'autres. Et par exemple, comme celui qu'on avait vu, je sais pas, ça doit dater peut-être il y a 3 ans, où on voyait des gens dans un pays où il y a la famine, où il y a un embargo, et où en fait, c'est la Croix-Rouge qui balance depuis l'air des gros ballotins de riz et de bouffe, pour que les gens puissent quand même manger, parce qu'en fait, l'État, enfin, le gouvernement a interdit toutes sortes d'importations.
De guerres de communauté.
Ah oui, c'est les guerres de communauté, je sais plus dans quel pays.
Le pire, c'était une femme qui perd son enfant.
Voilà, c'est ça.
Et genre, c'est normal, en fait.
Voilà, c'est filmé comme si c'était normal. Enfin, la mère, elle pleure même pas tellement elle est dans cette situation. En fait, elle savait que son fils allait mourir et elle est préparée, et pour elle, c'est la normalité, et c'est pas normal, en fait.
Et toi, quand tu vois ce reportage, tu pleures pour elle, quoi.
Et voilà, et moi, je pleurais comme une madeleine, quoi, et ça m'a vraiment beaucoup choquée, et je me suis dit, à ce moment-là, putain, moi, je suis dans mon canapé, je fais rien, il faut faire quelque chose. Alors, soit tu laisses tout tomber, ta vie, et tu vas faire du bénévolat en Afrique, mais bon, c'est pas donné à tout le monde, soit t'essayes de faire quelque chose depuis ici. Et d'ailleurs, je me demande si ça serait pas plus efficace de faire depuis ici, parce qu'en fait, pourquoi il y a ça chez eux, c'est à cause de nous. Donc si nous, on arrive à changer les décisions au niveau des politiques, au niveau des grands décideurs, ça changera chez eux. Et enfin, voilà. Parce qu'en fait, ce que les gens font là-bas, l'humanitaire, c'est juste du... C'est des pansements. On les soigne, mais en fait, on les guérit pas et on prévient pas. Alors que nous, depuis ici, on peut prévenir. Enfin, je sais pas si c'est encore... Je pense pas qu'il soit... Je pense que c'est un peu tard, mais bon, on peut toujours agir ici de manière plus collective, en fait. Et du coup, je sais plus ce que je disais, mais voilà, j'ai vu tous ces trucs-là, et les assos, pour l'instant, il y en a aucune, même si j'en connaissais plusieurs, qui m'ont vraiment tenté au point de me dire « Putain, je m'engage à fond, j'y vais, je donne du temps, je donne de ma personne et tout. » Et comment on est arrivé à ça ? C'est que par hasard, bon, on avait déjà commencé à changer notre mode de vie. On avait un collectif zéro déchet à Nanterre. Et il se trouve que quelqu'un de ce collectif connaissait quelqu'un qui organisait le tour Alternatiba à Nanterre. Et on nous a demandé d'héberger des gens. Donc on a hébergé 2 personnes qui étaient les formateurs d'une formation à la désobéissance civile.
Pour faire coordinateur d'action.
Pour être coordo, voilà, d'action non violente. Et donc dans le mouvement ANV COP21, qui est copain, frère avec Alternatiba, en fait, c'est à peu près les mêmes fondateurs. Et donc le soir où le tour arrivait à Nanterre, on a eu une conférence où ils nous ont expliqué tous les trucs sur le climat. C'était catastrophique, on allait mourir demain. Et ensuite, ils nous ont présenté les alternatives. Et ensuite, ils nous ont dit, ben, demain, il y a une formation à l'action non violente. Le soir, on rentre chez nous, on ne savait pas qui est-ce qu'on hébergeait. Et là, arrive John...
Deux hippies.
Deux hippies, limite les pieds nus. C'était trop drôle et c'était cool. Et du coup, on a discuté un peu tout ça. Et en fait, il s'avérait qu'un des deux, c'était John Palais. Nous, on ne savait pas qui c'était. Mais on se disait, tiens, lui, il a une réflexion vachement poussée sur le sujet et tout... Voilà, et donc ça nous a fait réfléchir. Bon, le lendemain, on est allé à la formation, tout ça. Et puis, ils nous ont expliqué voilà, comment fonctionnait une action non violente. Et quand on a eu cette formation, moi, je me suis dit tout de suite, ah putain, j'ai trop envie d'en faire une, ça a l'air génial. Ça, c'est vraiment de l'action, quoi. Et moi qui aime l'adrénaline et qui aime un peu me confronter à l'autorité, pour moi, c'était génial, en fait. C'était un truc, je savais que j'allais kiffer ce que j'allais faire. Et donc John nous a dit, ben, il y a une action le 1er août, donc ça c'était fin juin, début juillet je crois. Le 1er août, il y a une action qu'on va préparer avec ANV, si vous voulez monter un groupe ici à Nanterre et le faire, allez-y, go. Alors après nous on était carrément partants, les autres de la formation à Nanterre étaient pas trop chauds parce qu'ils avaient peur, tout ça, de coordonner. Bon finalement nous on l'a quand même fait.
On l'a coordonné,
mais après on était en même temps que on a fait tout avec Paris, donc ça nous a permis d'avoir un accompagnement qu'on n'était pas tout seul pour faire. On a vachement appris avec eux et on était un peu sécurisés, quoi. Et voilà comment on est arrivé dans ANV, quoi. Et quand on a fait notre première action, même si c'était ultra violent, et ben en fait je pense que après on avait juste qu'une envie, c'était d'en faire d'autres, quoi. Et puis voilà. Donc,
Et avant de finir, j'aime bien, je sais pas si c'est poser une question, mais laisser son débat ouvert, avoir ton avis sur cette phrase. J'avais entendu ou lu quelqu'un qui avait cette réflexion, mais finalement, les actions non violentes ont l'espace médiatique, en fait, sont utiles, mais on les écoute plus parce qu'il y a des actions violentes. C'est en fait de faire la comparaison entre l'action non violente et l'action violente, c'est de dire parce qu'il y a des actions violentes dans la vie, dans ce qui se passe dans le monde, l'action non violente a plus d'ampleur, prend plus d'ampleur. Et du coup, est-ce que pour toi, tu penses que s'il n'y avait que des actions non violentes, on arriverait à nos fins ?
S'il n'y avait que des actions non violentes ? Ça ouais. Supposerait que tout le monde est déjà non-violent et que tout le monde est initié à l'action non-violente.
Oui, le postulat, c'est de dire que l'action non-violente prend de l'ampleur à un espace médiatique important parce que derrière, il y a aussi des actions violentes. Et du coup, quand il y a des actions violentes, on n'entend pas ce qui se dit, on écoute juste la violence. Et c'est grâce à ces actions que ben, nous, on peut être écoutés quand on fait des actions non-violentes. Et ce serait peut-être supposé de dire que s'il n'y avait que des actions non-violentes, finalement, on ne nous entendrait pas. On serait pris peut-être pour des bisounours. Est-ce que ça aurait un impact ? Est-ce que tu penses que s'il n'y avait que des actions non-violentes, qu'on serait tous bienveillants, entre guillemets, est-ce qu'on aurait un impact ?
Ça, c'est une question.
Ouais. Bah moi je me la pose.
J'ai pas de réponse, mais je sais pas, parce que j'ai du mal à imaginer un monde totalement non violent. Ce serait l'idéal, mais je pense que c'est pas réaliste, ça n'existera jamais.
Mais après, d'un côté, si on a un monde non violent, on a un monde bienveillant, du coup on s'écoute un peu plus.
Bah, si tout le monde est non violent et que tout le monde utilise la communication non violente pour parler, pour s'exprimer, pour débattre et pour échanger, forcément le monde est idéal, mais ça n'existe pas parce que l'humain, il a des...
Ouais, mais...
Je dirais pas que c'est la nature humaine d'être violent, mais enfin quand même un petit peu, quoi. C'est-à-dire que c'est une réaction normale. Enfin, si tu veux, quand t'es pas initié à la non-violence, moi ça me paraît physiologique, naturel de répondre à la violence par la violence. Ou quand t'es énervé ou quand t'es en colère, t'as envie de taper contre les murs ou t'as envie de taper la personne que t'as en face de toi. C'est un truc qui te... Parce que dans ces cas-là, tu réfléchis plus avec ton cerveau. Tu réfléchis plus avec le cerveau dedans, tu réfléchis avec le cerveau de tes tripes. Et tes tripes, elles te commandent de bouger, de faire un truc pour sortir cette colère. Et donc, les gilets jaunes, c'est ce qui se passe, les violences dans les manifs et tout. Ces gens qui vont... Même les casseurs, pourquoi ils cassent ? Je veux dire, c'est pas une vocation de casser. Tu te réveilles pas quand t'es petit en te disant « Oh, je vais devenir casseur si, ». Même les casseurs, ils ont une revendication quelque part. Enfin, ils cassent pour quelque chose, je sais pas pourquoi. Mais ils sont en colère contre la société et c'est comme ça qu'ils l'expriment. Je suis pas en train de les supporter, mais il y a une raison en fait à cette violence. Et bon, après, si le gouvernement était cool avec nous, évidemment, il y aurait moins de violence, mais la question de la violence, enfin voilà, je me perds un peu dans mon propos.
Mais... Pour moi, la violence, elle est liée à notre conditionnement. On est violent parce que toute notre société est violente et notre éducation a été, mine de rien, un peu violente.
Ouais.
Je dirais pas qu'on s'est fait taper dessus, mais il y a quand même l'autorité qui reste, donc l'autorité, c'est quand même violent pour un enfant. Et j'ai envie de croire que si un jour, l'utopie, hein, si un jour on éduque nos enfants de manière tous bienveillante, ça se trouve naturellement, on ne répondra plus par la violence. Après, il y a des entreprises, il y a des assos, il y a plein de communautés qui sont non-violentes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. La non-violence, c'est un outil pour, à l'heure actuelle, pour ne pas extérioriser, ne pas faire de mal dans notre communication ou dans nos actes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas détester, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être violent intérieurement, être en colère. Il faut, c'est un sentiment normal. Mais que si on est dans une société où on est plus bienveillant, plus, moins violente, ça se trouve naturellement, on ne sera pas violent physiquement ou verbalement. Et on aura peut-être des façons de faire réagir complètement différentes.
Oui, je pense. Après, ça s'éduque aussi parce que je vois, moi, quand je suis vraiment face à une injustice et que j'ai la personne en face de moi qui provoque cette injustice, j'ai du mal à rester calme et non violente. C'est pour ça que moi, je préfère d'ailleurs ce rôle de coordo parce que ça m'évite d'être confrontée à la personne qui est tellement conne, qui raconte n'importe quoi et qui comprend rien à ce qu'on est en train de faire. Et je sais que si j'ai cette personne-là en face de moi, je vais réagir pas de manière violente physiquement, mais de manière violente verbalement, c'est-à-dire que je vais tellement m'énerver que je vais sortir ma colère d'une manière qui va être agressive pour la personne en face, et du coup ça va avoir aucun effet, parce qu'elle va pas écouter ce que je lui dis. Et du coup, pourquoi je disais ça? Oui, je pense que cette manière dont je réagis, c'est parce que je suis conditionnée à réagir comme ça. C'est-à-dire que j'ai été habituée à voir des gens qui, quand ils sont en colère, ils s'énervent et ils gueulent. Et du coup, parce que c'est comme ça que tout le monde est, en fait, je veux dire, dans la société actuelle, quand t'es en colère, tu gueules, quoi.
C'est plus t'es en colère, plus t'as raison.
Plus je suis en colère et plus j'ai raison.
Oui, plus t'es en colère, plus, quand tu fais un débat avec quelqu'un, s'il est pas d'accord, il va monter d'un cran. Ouais. C'est pour faire style que...
Ouais, oui, c'est un peu la loi de la jungle, quoi.
C'est celui qui gueule le plus qui aura raison.
Voilà, celui qui gueule le plus fort, il a raison, quoi.
Ouais.
Parce qu'au bout d'un moment, il intimide l'autre, en fait, et du coup, c'est de la violence. Parce que tu laisses pas l'autre s'exprimer, et en plus t'es pas dans une position d'écoute, t'es juste dans une position de rejet de l'autre, de reproche, et donc en fait t'es pas dans une optique de pouvoir écouter, ouais, et de pouvoir changer d'avis, en fait.
Bah, ton ego reprend le dessus.
Et donc pour ne plus être comme ça, je dois faire des efforts, donc ça veut dire que ça s'éduque quand même et que ça peut changer. Mais avec de l'entraînement, ou alors si c'est des enfants qui ont été éduqués toujours, depuis toujours comme ça, peut-être qu'eux, ils auront des manières différentes de réagir et d'appréhender la société, hein, ça c'est clair, mais on sait pas, on verra bien.
Ce serait intéressant de voir des enfants qui ont été éduqués différemment, comment ils réagissent.
Oui. Ouais. Bah, ce sera peut-être le sujet d'un prochain article plus podcast.
Ouais. Sur l'éducation alternative.
Ouais. Et puis peut-être, ouais, on verra bien par la suite où nous mènerons toutes ces actions.
Ouais, bah là, nous, on enregistre aujourd'hui ce podcast et demain, on est parti sur une action.
une action demain matin
ouais.
à Nantes pour sensibiliser les automobilistes au fait qu'il y a de l'huile de palme dans les carburants et que donc on demande à la Commission européenne de d'interdire ces biocarburants qui sont en fait une fausse bonne idée pour remplacer le pétrole.
Ouais.
Et donc demain, on aura la chance d'avoir un orang-outan avec nous.
Ouais, va falloir le ramener chez lui.
Ouais. Et on postera la vidéo de l'action. Ah non, il n'y aura pas de vidéo, mais il y aura des photos de l'action quand elle sera faite. Voilà.
Bon, la suite au prochain épisode.
Bisous, bisous.
Coucou, en fait, c'est encore nous. On avait oublié de vous dire que c'est un blog et qu'on a envie de le faire participatif. Donc si vous êtes d'accord avec nous, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous pouvez toujours laisser des commentaires en essayant, bien entendu, d'être constructif et bienveillant pour qu'on puisse tous échanger et discuter parce qu'il faut partir du principe que nous, on a notre réflexion qui change assez rapidement. Enfin, pas complètement non plus. Mais notre réflexion change beaucoup et on aime bien enrichir notre réflexion avec les expériences des gens. Et voilà, si c'est une expérience authentique, si quelqu'un a vraiment quelque chose à dire par rapport à ce qu'il a vécu, si quelqu'un veut faire des actions mais qu'il n'ose pas, si quelqu'un fait des actions et qu'il a vécu quelque chose complètement différemment de nous.
Ou si quelqu'un a une question sur ouais, ça, ouais. qu'on n'aurait pas abordé, ou des appréhensions, parce que je pense que... Il doit y avoir des questionnements, je pense, assez forts sur ces actions-là. Ben...
N'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà.
Ouais. Voilà. Rebisous, bisous.